VOA Afrique, le monde aujourd'hui. À Washington.
Bonjour à tous et à tout le monde. Aujourd'hui, édition du mardi 18 juillet 2017. En direct de Washington, Idrissa Seroudia et Anne Albertson. Pour commencer, les titres.
En République démocratique du Congo, le changement à la tête de la police nationale.
En République centrafricaine, le procureur de la Cour pénale spéciale, Toussaint Moutazini, assure que les victimes meurtries de la Centrafrique ne seront jamais abandonnées.
Le président de la Côte d'Ivoire, Alassane Ouattara, a vanté hier à Ouagadougou la bonne entente avec son voisin, le Burkina Faso.
Au Maroc, les autorités interdisent d'ores et déjà une manifestation prévue jeudi à Al-Hoceima.
L'administration Trump certifie de nouveau que Téhéran continue de respecter l'accord sur le nucléaire iranien.
Et ne manquez pas notre page sport ainsi que la Minute Éco pour l'instant, le journal.
En RDC, le général Dieudonné Amouli a été nommé commissaire général de la police nationale congolaise par le président Joseph Kabila. L'actuel chef adjoint des forces armées de la RDC remplace à ce poste le général Charles Bizengimana. Dans la foulée, le commandement de la police de Kinshasa, la capitale congolaise, est confié au général Silvano Kasongo Kitenge, en remplacement du général Célestin Kanyama. Ce dernier fait l'objet de sanctions américaines pour son rôle dans une opération de police contre des délinquants entre fin 2013 et début 2014, opération qui avait fait une cinquantaine de morts et une trentaine d'enlèvements selon des ONG. Monsieur Kabila a également permuté ou nommé des commandants de police au niveau des provinces de la RDC, notamment dans les provinces instables du Nord Kivu, du Sud Kivu et de l'Ituri. Ces nominations sont intervenues dans un contexte de montée de l'insécurité à travers plusieurs villes du pays, particulièrement à Kinshasa, où des attaques par des personnes non identifiées ciblent des prisons et des édifices publics.
En Centrafrique, le procureur de la Cour pénale spéciale s'est exprimé publiquement à Bambari pour la première fois depuis sa prestation de serment le 30 juin. C'était hier, à l'occasion de la Journée internationale de la justice. Le point avec Yacouba Ouédraogo.
Le procureur de la Cour pénale spéciale, Toussaint Moutazini, a affirmé que les victimes meurtries de Centrafrique ne seront jamais abandonnées. Nous déclarons solennellement que le temps de la justice et de la vérité est arrivé et que très bientôt, la paix va changer de camp, a martelé le magistrat congolais. La Cour pénale spéciale est chargée d'instruire et juger les crimes contre l'humanité et les crimes de guerre commis en Centrafrique depuis 2003. Créée en 2015, elle n'est pas encore opérationnelle et devrait commencer ses enquêtes vers le mois d'octobre 2017. Avant cette période, cette Cour doit œuvrer à mettre en place le règlement de procédure et de preuves et faire en sorte que tous les magistrats nommés s'installent à Bangui et prêtent serment. En mai, l'ONU a publié un rapport recensant 12 ans de crimes commis par l'armée ou des groupes armés en Centrafrique en 2003 et 2015.
Par ailleurs, le Fonds monétaire international a approuvé hier le versement d'une deuxième tranche de prêt de 16,3 millions de dollars à la Centrafrique. Son programme d'aide a été également augmenté pour aider Bangui à honorer rapidement des arriérés et soutenir la croissance et la cohésion sociale. Le Fonds estime qu'en dépit des conditions de sécurité difficiles en RCA, la mise en œuvre du programme économique conclu avec le FMI est satisfaisante.
Le président de la Côte d'Ivoire, Alassane Ouattara, a vanté la bonne entente avec son voisin le Burkina Faso. C'était hier à Ouagadougou, en présence de son homologue Roch Marc Christian Kabore, pendant le sixième sommet du traité d'amitié et de coopération entre les deux pays. Eric Manirakiza.
Ce sommet réunit chaque année les présidents ivoiriens et burkinabés. Ils doivent aujourd'hui valider des dossiers importants selon M. Ouattara, soulignant la bonne entente entre les deux voisins qui formaient un seul territoire au début de l'ère coloniale. Abidjan et Ouagadougou ont connu une période de froid entre 2014 et 2015 à la suite de la présence de l'ancien président burkinabé Blaise Compaoré, chassé du pouvoir par la rue. Il fait l'objet d'un mandat d'arrêt lancé par la justice burkinabé. Les deux pays ont donc mis l'accent sur la coopération et le sommet de 2016 avait permis d'aplanir les différends. Par ailleurs, le Burkina dépend de son voisin pour l'accès à la mer ainsi que pour les importations. Monsieur Ouattara a indiqué que la situation continuera de s'améliorer pour chacun des États, considérant qu'il est important que ce sommet puisse montrer aux populations respectives que le Burkina Faso et la Côte d'Ivoire avancent.
La lauréate du prix Nobel de la paix, Malala Yousafzai, en visite au Nigeria, a rencontré lundi des lycéennes de Chibok, libérées des mains de Boko Haram. 113 d'entre elles sont toujours retenues en otage. Lors d'une rencontre à Abuja avec le président par intérim, Yemi Obasanjo, la jeune icône de l'éducation des filles a appelé à la mise en place d'un plan d'urgence pour l'éducation dans ce pays. Selon l'UNICEF, quelques 10,5 millions d'enfants ne vont pas à l'école au Nigeria et 60% d'entre eux sont des filles.
Luanda a rejeté les conditions de l'Union européenne pour l'envoi d'observateurs aux élections générales angolaises du 23 août. Le point avec Solange Niamoulissa.
Les Angolais ne s'attendaient pas à ce que quelqu'un leur impose sa façon d'observer les élections et leur donne des leçons, a fait savoir le ministre angolais des Affaires étrangères, Georges Tchikoti. L'invitation à l'Union européenne reste ouverte, a-t-il dit, ajoutant cependant qu'il n'est pas question d'accord spécifique avec les organisations désireuses d'avoir des observateurs électoraux. Selon le chef de la diplomatie angolaise, aucune organisation internationale n'a imposé les conditions d'observation des élections. Seule l'Union européenne, lorsqu'elle a été invitée à envoyer des observateurs, a suggéré la signature d'un mémorandum d'accord, a souligné Georges Tchikoti. L'Union européenne demandait notamment d'avoir accès à l'ensemble des bureaux de vote du territoire angolais. Les élections du 23 août doivent marquer des 38 ans de règne du président angolais José Eduardo Santos. Au pouvoir depuis 1979, le chef de l'État sortant, dont le régime réprime toute contestation, a annoncé qu'il ne se représenterait pas.
Au Maroc, les autorités ont interdit hier une manifestation prévue jeudi à Al-Hoceima, épicentre d'un mouvement de contestation qui secoue depuis 9 mois la région du Rif dans le nord du pays. Cet appel à manifester avait été lancé par Nasser Zebzafi, leader du mouvement de contestation, avant son arrestation fin mai par la police. La quasi-totalité des figures de la protestation ont été arrêtées depuis. L'appel à manifester a cependant continué à être relayé par les réseaux sociaux.
Washington, la voix de l'Amérique, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Ici à Washington, deux autres sénateurs républicains, pour un total de 4, ont annoncé qu'ils s'opposeront au plan de réforme du système de santé, coulant ainsi dans sa forme actuelle le projet de la majorité au Sénat. Les républicains, qui n'ont qu'une majorité de 52 sièges sur les 100 que compte le Sénat, ne pouvaient perdre que 2 voix dans leur tentative d'adoption du projet.
Les États-Unis se félicitent de la décision de l'Union européenne d'imposer hier des sanctions contre 8 responsables militaires et 8 scientifiques impliqués dans des attaques à l'arme chimique contre la population civile en Syrie. Selon la porte-parole du Département d'État, Heather Nauert, il s'agit pour Washington, l'UE et la communauté internationale d'un effort soutenu pour que le régime Assad réponde de ses actes. Les 16 Syriens visés par les sanctions sont soumis à une interdiction d'entrée dans les pays de l'Union européenne et à un gel de leurs avoirs.
L'émissaire onusien pour l'Irak se dit préoccupé par les représailles dont sont victimes les civils de Mossoul, soupçonnés de collaboration avec les militants du groupe État islamique. Précision de Michel Joseph.
S'adressant lundi au Conseil de sécurité de l'ONU, Yann Koubis a fait état d'un soutien populaire croissant à Mossoul en faveur d'une punition collective des familles perçues comme s'étant associées aux djihadistes. Elles sont de plus en plus victimes d'actes d'éviction, de confiscation de leur maison et d'autres mesures de rétorsion, a expliqué l'émissaire onusien pour l'Irak. Yann Koubis a exhorté le premier ministre irakien Haider al-Abadi à agir de toute urgence pour faire cesser ces attaques. Des mesures prises contre des civils sans preuve suffisante violent la constitution irakienne et les obligations internationales de l'Irak, a-t-il souligné. L'émissaire onusien a par ailleurs appelé à la préservation des preuves des crimes commis par les militants islamistes aux fins de possibles poursuites judiciaires. Notant les grands défis qui se profilent à l'horizon après la libération de Mossoul, Yann Koubis a souligné que le gouvernement irakien doit transformer sa victoire militaire dans cette ville en stabilité. Il est crucial de promouvoir l'état de droit et le développement, a conclu l'émissaire onusien pour l'Irak.
Le gouvernement du président Trump certifie de nouveau que Téhéran continue de respecter l'accord sur le nucléaire iranien, un accord que le président américain avait qualifié de pire accord jamais négocié.
Moscou exige de Washington la restitution de 2 propriétés diplomatiques saisies en décembre dernier suite aux accusations d'ingérence russe dans l'élection présidentielle américaine. Le point avec Didi Dico.
Dmitri Peskov, porte-parole du Kremlin, a déclaré aux journalistes que la Russie juge inacceptable d'instaurer des conditions au retour des résidences diplomatiques. Moscou estime que les propriétés doivent être rendues sans condition ni discussion, a dit le porte-parole. En décembre 2016, l'administration de Barack Obama avait expulsé 35 diplomates russes et leurs familles et fait fermer deux complexes résidentiels russes dans le nord-est des États-Unis. Résidences qui, selon Washington, étaient utilisées par des espions russes. Ce contentieux devait être au centre d'une rencontre hier entre le numéro 3 du département d'État américain, Thomas Shannon, et le vice-ministre russe des Affaires étrangères, Sergei Ryabkov, qui n'a pas évoqué cette pomme de discorde. Certains sujets sensibles, dont les dossiers ukrainiens et syriens, pourraient faire l'objet de discussions entre les deux parties. La question des propriétés diplomatiques a cependant été abordée par le président russe Vladimir Poutine lors de sa rencontre avec Donald Trump en marge du G20 de Hambourg le 7 juillet.
Fin de ce journal sur VOA Afrique. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui.
La Minute Écho, Jacques Aristide.
Démission hier du ministre malgache des Finances pour faute de soutien de la part du gouvernement. Gervais Rakoto-Harimanan, reconnu pour sa rigueur budgétaire, avait dénoncé la gestion de deux entreprises publiques, la Girama qui produit l'eau et l'électricité et la compagnie aérienne Air Madagascar. La grande île, gangrenée par la corruption, figure parmi les pays les plus pauvres au monde. L'accès à Internet a été rétabli hier en Somalie après une coupure de plus de 3 semaines provoquée par un porte-conteneur dont l'ancre avait rompu un câble optique reliant le pays au reste du monde. L'interruption a affecté environ 6,5 millions d'habitants. Le gouvernement a évalué les pertes économiques à 10 millions de dollars par jour. La Banque mondiale estime à 1,4 milliard de dollars par an le montant des versements de l'étranger, dont une grande partie effectuée en ligne. Après avoir adopté leur billet de banque, les 1400 habitants d'Orania en Afrique du Sud comptent désormais lancer leur propre monnaie électronique. Cette ville à majorité blanche pourrait être la première du pays à utiliser une version locale du fameux Bitcoin. Cette crypto-monnaie s'échangerait sur Internet par milliards de dollars. Née de la fin de l'apartheid, Orania se défend d'être raciste et d'y profiter du droit à l'autodétermination.
À présent, les sports avec Yacouba Ouédraogo. Yacouba, bonjour.
Bonjour Idrissa, bonjour à tous.
La Coupe d'Afrique des Nations sur l'agenda de la Confédération africaine de football à Rabat aujourd'hui et demain.
Tout à fait, Idrissa. Selon une source interne de la CAF, la compétition africaine se verrait décalée de janvier pour être jouée entre juin et août. L'argument météo avancé pendant des décennies sous la présidence d'Issa Hayatou ne convainc pas la nouvelle équipe dirigeante. Dans le cadre de l'Afrique centrale, un calendrier modifié serait envisagé pour permettre l'organisation du tournoi. La CAN continuera en revanche de se jouer tous les 2 ans. Un délai de 4 ans comme le mondial de la FIFA n'est pas envisageable d'un point de vue économique selon la CAF. Conformément à l'élargissement du nombre de participants aux Coupes du monde de la FIFA, la CAF envisage d'augmenter le nombre de pays qualifiés.
Aristide Bansé signe à Al Masry.
Oui, l'attaquant international burkinabé s'est engagé pour 2 ans avec le club égyptien. Élu meilleur buteur 13 réalisations et meilleur joueur du championnat ivoirien, qu'il a remporté avec la SEC Mimosa, Bansé, 32 ans, a déjà évolué dans 19 clubs.
Francky Frédéric, suspendu par la Fédération internationale d'athlétisme.
Effectivement, l'ancien athlète namibien a été suspendu à titre provisoire de sa fonction de membre du conseil de l'IAF et de toute fonction dans l'athlétisme en attendant les résultats de l'enquête en son encontre. Ainsi en a décidé la commission de discipline de l'IAF. Francky Frédéric est soupçonné de corruption. Il aurait reçu environ 300 000 dollars le jour même de l'attribution des Jeux Olympiques par le CIO à Rio.
Basketball pour terminer, on connaît les poules de l'Afrobasket 2017.
Effectivement, le tirage au sort a été effectué ce week-end à Maurice, où se tient actuellement la compétition continentale des moins de 16 ans. Le groupe A à Tunis regroupe les champions d'Afrique en titre, le Nigeria, la RD Congo, le Mali et la Côte d'Ivoire. Le groupe B sera à Dakar avec l'Angola, la Centrafrique, le Maroc et l'Ouganda. Après plusieurs mois d'attente pour trouver un pays hôte du tournoi, c'est finalement le Sénégal et la Tunisie qui vont l'habiter du 8 au 16 septembre.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
De nouveau avec vous, Idrissa Seydoudia. Nous passons maintenant à nos dossiers du jour. L'Union européenne a fourni une aide de 10 millions d'euros, soit 6,5 milliards de francs CFA au Niger, pour l'aider à juguler le flux de migrants clandestins ouest-africains vers l'Europe. Cette somme va-t-elle aider à résoudre le problème des migrations ? Pour des éléments de réponse, Yacouba Ouédraogo a joint Albert Chaibou, rédacteur en chef du journal Alternative.
Ce n'est pas la première fois que le Niger bénéficie de cette aide financière. Après le sommet de la Valette, le Niger a reçu aussi des sommes données par l'Union européenne. Récemment, lors du sommet du G7, le président nigérien Mamadou Issoufou disait environ 600-700 millions d'euros sur 5 ans. Et que, selon lui, l'Union européenne s'est aussi engagée à soutenir le Niger à hauteur de 150 millions, sans compter donc le soutien au niveau bilatéral de l'Italie, de l'Allemagne, de la France et de l'Espagne. Donc c'est beaucoup d'argent que le Niger a obtenu justement dans cette lutte.
Une loi nigérienne prévoit jusqu'à 30 ans de prison pour les personnes qui aident les migrants au passage. Les patrouilles contre les migrants se poursuivent et le phénomène ne s'arrête pas. Pensez-vous que cet argent puisse aider à résoudre le problème des migrations?
Non, ça ne résout pas parce que les gens continue aujourd'hui. Ce qui est déplorable, c'est que c'est dans la clandestinité que tout s'organise à partir d'Agadez. Et les passeurs et ceux qui transportent les migrants, ils suivent désormais des routes avec beaucoup de risques pour les migrants et pour eux-mêmes pour se rendre en Libye. Et la preuve, c'est qu'il y a quelques mois encore, déjà au mois de juin, il y a eu beaucoup de migrants qui ont été laissés sur le chemin par les passeurs, tout simplement parce qu'il y a des patrouilles militaires et parce que si on les prend, on les envoie en prison et on leur arrache aussi leurs véhicules. Donc cette situation aujourd'hui a créé vraiment plus de problèmes.
Alors faut-il douter de l'efficacité de cette aide financière-là?
La grande partie de l'aide est utilisée dans la surveillance, dans le contrôle, dans la répression. Ça montrait ses limites et ça, l'Union européenne déjà a utilisé à travers Frontex, dans la Méditerranée, etc. Ils utilisaient beaucoup de moyens de surveillance, de contrôle, mais ça n'a pas résolu. Les jeunes continuent à prendre des bateaux pour se rendre en Europe. Donc c'est la même situation qui se passe aujourd'hui dans le Sahara, entre le Niger et la Libye, le Niger et l'Algérie. Donc ce n'est pas du tout efficace.
Albert Chaibou, rédacteur en chef du journal Alternative.
Vous êtes bien sur VOA Afrique, à Niamey au Niger, sur le 102.5 FM, 24h sur 24.
Au Togo, la ville de Sokodé expérimente une approche à la fois sanitaire et financière pour aider les femmes à sortir de la pauvreté. L'ONG Alafia, initiatrice de ce programme d'appui communautaire, s'investit dans deux préfectures du Togo. Reportage de notre correspondante Kay Lawson.
Réduire le taux de mortalité infanto-maternelle est l'une des missions que s'est assigné le programme Global Alliance Against Community Empowerment Gaze de l'ONG Alafia. Dans les préfectures de Tchaoudia et de Tchamba, situées au centre du Togo, certaines femmes sont particulièrement exposées au risque de complications lors de l'accouchement. Et pour cause, elles sont soit excisées, soit financièrement vulnérables. Conscient de cette vulnérabilité, grâce à son volet santé maternelle, Guess s'occupe de la prise en charge médicale des parturientes et de leur accouchement. Hortense Santos, directrice nationale des opérations d'appui communautaire à l'ONG Alafia.
Nous prenons en charge les femmes enceintes démunies, mais aussi les femmes excisées. Lorsque ces femmes tombent enceintes, aller se faire consulter déjà, c'est un gros problème. Donc tout ce qui est organisé par Alafia, c'est d'aider ces femmes à avoir les bonnes informations, mais aussi à les appuyer parce qu'au niveau financier, elles ont effectivement des difficultés. à les appuyer pour que leur process se passe au mieux.
Depuis le début de ses activités en 2012, le programme GUESS a apporté son assistance à près de 5000 femmes enceintes dans les deux préfectures qui constituent sa zone de couverture. Marlène Tagba, 45 ans, mère de 4 enfants, fait partie des bénéficiaires de GUESS.
J'ai 4 enfants. Ma deuxième session a été difficile pour moi. C'est que je n'avais pas la possibilité pour me consulter et j'étais à la maison. Lors de l'accouchement, le nouveau-né était mort. Maintenant que la troisième gestion, le projet à la fin était là, les agents de l'ISP m'ont averti. Ils m'ont pris en charge pour aller à l'ISP. On m'a fait consulter. Maintenant, j'ai accouché dans les bonnes conditions et mon bébé est en vie.
Pour accompagner ces femmes vivant dans des situations d'extrême pauvreté, Alafia les embauche dans une unité de production de beurre de karité à Sokolé. Issif Tene Tchadjobo est employé dans cette unité de production. Alafia a changé nos vies. Grâce à notre travail, nous arrivons à bien nous occuper de nos enfants. Ils ne sont plus renvoyés de l'école pour non paiement des frais de scolarité. Nos problèmes financiers sont réduits. Nous disons merci à Alafia. La finalité des actions communautaires que mène l'ONG Alafia dans les préfectures de Tchamba et de Tchaoudja est non seulement de permettre à ces femmes d'être en bonne santé, mais aussi de les autonomiser financièrement afin qu'elles puissent devenir des reines. Kay Lawson, Sokolé, VOA Afrique.
Dans la prochaine édition de Votre Santé, Votre Avenir, nous parlerons de la drépanocytose.
Environ 5% de la population mondiale est porteur du gène drépanocytaire et donc susceptible de transmettre cette maladie héréditaire qui n'a pas de traitement pour le moment.
Et pour en parler, nous recevrons le professeur Akwete Yvonne Segebna, enseignant à la faculté mixte de médecine et de pharmacie de Lomé au Togo. Il nous dira ce qu'il faut faire lorsque l'on est porteur du trait S.
Nous irons en RDC pour écouter Blaise, un malade qui nous racontera ses souffrances et ses craintes. Nous écouterons aussi le docteur Patricia Foto, directrice du programme national de lutte contre la drépanocytose.
Votre santé, votre avenir est un programme de VOA Afrique diffusé les samedis, dimanches et mercredis à 8h30, temps universel.
Ne manquez pas le rendez-vous.
Au Tchad, c'est le bac depuis lundi pour plus de 71 000 candidats. Toutes séries confondues. La particularité de cette année, c'est la création de deux nouveaux centres pour les réfugiés soudanais installés dans l'est du Tchad depuis 2003. Sur place, notre correspondant André Kotmajingar fait le point.
C'est la sous-préfecture de Hadradit située dans le département d'Assunga à l'est du Tchad qui abrite ces deux nouveaux centres. 682 candidats réfugiés soudanais dont 446 filles passent cet examen national. C'est aussi un ouf de soulagement pour les candidats autochtones qui composent cette année près de leurs familles respectives, évitant ainsi de parcourir 200 km environ avec tout le risque pour passer cet examen à Abéché, chef-lieu de la région. Le préfet du département d'Assunga, Ismaël Nyamuta Diorbo, explique les raisons qui ont amène le gouvernement à créer ces deux centres à Hadradit qui n'est qu'une sous-préfecture et non à Adré, chef-lieu du département.
On a un peu discuté sur le choix. Adré est mieux en infrastructure. Mais l'UNHCR nous a dit qu'il prendrait en charge le déplacement de ses élèves, des élèves autochtones, hébergement et nourriture. Comme c'est la première fois qu'on a eu dans les années à venir, nous allons faire un transfert de ces centres dans le chef-lieu du département.
Pour l'UNHCR, cette initiative conjointe témoigne de l'hospitalité et de la solidarité du gouvernement tchadien à l'endroit des réfugiés vivant sur son sol depuis plus de 13 ans. Avec l'intégration du curriculum tchadien, ces réfugiés n'auront-ils pas de difficultés à poursuivre leur études supérieures s'ils désirent regagner leur pays d'origine? Les explications de Yannick Yankoyanke, spécialiste en éducation au ICR.
Le bac au niveau du Tchad est un bac international. C'est plutôt un avantage parce qu'avec le bac au niveau du Tchad, l'accès à l'université est plutôt grandement ouvert. On a l'opportunité d'avoir des bourses comme celle d'AFI qui est grâce offerte par le gouvernement allemand à travers la fondation Einstein qui offre des assistances aux étudiants réfugiés au Tchad de poursuivre les études au niveau du Tchad.
Le constat sur le terrain montre que les garçons qui composent le bac sont moins nombreux que les filles, ce qui confirme la préoccupation de femmes recueillies dans les camps. Préoccupation selon lesquelles, si les femmes avaient été instruites, le Darfour n'aura pas vécu la violence qui les a mis sur le chemin de l'exil. C'est pourquoi elles considèrent leur situation actuelle comme une opportunité qu'il faut exploiter en inscrivant les filles massivement à l'école afin de renverser la tendance. À la fin de la première épreuve, quelques candidats pas, se disent confiants de leur réussite.
L'épreuve, c'est pas difficile. Je n'ai pas peur. Je suis sûr pour aborder les autres épreuves. Et je suis capable de convaincre aussi.
Nous, on a trois sujets au choix. Un sujet, c'est la dissertation de contre-protection des textes. Et trois commentaires composés.
Le sujet abordable, on va attendre le résultat.
André Godma Dingar Hadjaradit dans la région du Wadaï pour VOA Afrique.
VOA Afrique, Djamena, c'est 93.1 FM au Tchad.
En Guinée, un jeune chercheur s'engage dans la fourniture d'eau potable. Basé à Labé, à plus de 400 kilomètres de Conakry, cet inventeur a fait installer plusieurs centaines de pompes à eau dans son pays. Reportage réalisé à Labé par notre correspondant Zakaria Camara.
Safatou, quartier périphérique de la ville. Ici, avoir de l'eau potable est un rêve pour de nombreuses familles. L'eau qu'on puise dans ce puits est en propre à la consommation. Si nous mettons de l'eau de Javel, ça tue les grenouilles. Après des recherches, Agui Boubari passe d'une maquette aux premières pompes à piston alternatif. C'est la création de fabrication de pompes à Labé, FAPEL.
Nous avons aujourd'hui amélioré beaucoup les conditions de vie de cette population vulnérable par rapport à l'accès à l'eau et surtout les enfants qui parcourent des kilomètres à la recherche de cette denrée très rare.
L'entreprise fabrique deux types de pompes. Une pompe d'irrigation qui peut fournir jusqu'à 3000 litres d'eau par heure. Et l'autre à usage domestique qu'utilise cette mère de famille. Avant, il fallait faire des efforts pour tirer l'eau du puits. Mais depuis que nous avons fait installer cette pompe, notre puits est protégé et nous sommes soulagés. Dans le bureau de l'inventeur, plusieurs reconnaissances, mais aussi des prix, comme celui qu'il a reçu des mains du président français François Hollande à Paris à l'occasion de la France s'engage au Sud, ou encore le coup de cœur du jury de la start-up de l'année au Maroc. Des distinctions qui donnent des ambitions.
Nous avons déjà entamé le processus pour la certification de la pompe sur le plan national. Après la Guinée, c'est les autres pays qui viendront, comme le Niger. J'étais invité tout récemment au Niger pour la présentation au président de la République du Niger, la pompe FAPEL.
Avec plus de 2000 pompes vendues en Guinée, plusieurs autres au Sénégal, en Gambie, en Sierra Leone et au Niger, Aguibou a fait un grand pas, mais n'entend pas s'arrêter en si bon chemin. De retour de l'abbé, Zakaria Camara pour VOA Afrique.
Salut les amis, ici Roger Montou de RM Show sur VOA Afrique à Washington DC. Restez branchés ce soir dans RM Show à 20h temps universel au programme de la bonne musique comme d'hab. Et notre sujet de cette semaine, la paresse, est-elle un défaut ou une maladie? Comment la vaincre? Envoyez-nous vos réactions par SMS ou WhatsApp au 001 703 350 37 31 ou contactez-moi alors sur ma page Facebook Roger Montou, la voix de l'Amérique. Appelez-nous aussi au 001 202 205 26 33 ou au 001 202 619 79 25. RM Show, c'est ce soir à 20h temps universel sur VOA Afrique. Peace Africa.
Madonna, 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 Madon
monde aujourd'hui, VOA Afrique en direct de Washington. Voilà, c'est tout pour cette édition matinale. Merci de l'avoir suivi. Merci à Anne Albertson pour le suivi de l'actualité et la mise en onde. Un grand merci à toute la rédaction. Idrissa Seloudia à Washington. Bonne journée à l'écoute de VOA Afrique.